With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu en ce 29 janvier. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine, comment vas-tu?
Ça va bien?
Oui, ben, ça va super bien. On s'est vu hier soir, la première fois depuis longtemps qu'on s'est comme vu physiquement au match, à un match de hockey en passant, dans un centre belle complètement vide. Alors on va en parler.
T'as vu mes cheveux longs?
J'ai vu tes cheveux longs. J'étais un peu choqué, je dois être bien honnête, mais ça te va bien, là. J'ai rien de mal à dire sur tes cheveux.
Correct, c'est du hockey hair, c'est la chevelure si populaire en ce moment. Écoute, oui, on s'est vu hier, donc match d'ouverture locale du Canadien, évidemment, c'est clair que l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'ouverture, le match d'ouverture locale du Canadien. Continue à parler de détails reliés à ce début de saison-là. Je dois mentionner à nos auditeurs qu'on a un invité aujourd'hui, un invité de marque, qu'on a entendu hier avec grand plaisir. Michel Lacroix, l'annonceur maison du Canadien, va être notre invité au Super Athlétique aujourd'hui. Comme la semaine dernière, on a notre minute du patrimoine. Donc, c'est un nouveau segment qu'on a qui traite finalement, on prend une minute chacun pour discuter d'un élément qui attire notre attention au sein d'une autre équipe de la division canadienne. Mais je voulais également mentionner à nos auditeurs, rappeler à ceux qui étaient là la semaine dernière ou à ceux qui l'ont manqué, qu'on a une boîte vocale maintenant pour pouvoir prendre vos appels, pour pouvoir vous écouter, vous poser des questions, puis après ça, on peut les passer à l'intérieur même du podcast. Ça va être le cas tout à l'heure. Alors, je rappelle à tout le monde que vous pouvez soit nous rejoindre par courriel au balado@gmail.com. Donc, balado, B-A-L-A-D-O, Habs, H-A-B-S, et pod, comme dans podcast, P-O-D. Balado, Habs, pod, @gmail.com, ou encore notre boîte vocale, c'est le 424-703-3859. Encore une fois, 424-703-3859. Et on a un premier commentaire dont on va discuter dans quelques minutes. Mais tout d'abord, Arpin, j'aimerais ça avoir ton opinion générale sur la façon dont le Canadien a lancé sa saison locale hier. Est-ce que as-tu l'impression que c'était un peu plus de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant lors du voyage sur la route, qu'il y avait des nouveaux éléments, des nouvelles composantes qui ont attiré ton attention?
Bien, dans le fond, beaucoup a changé dans le contexte dans lequel le Canadien fallait jouer. Premièrement, les Flames de Calgary présentaient un adversaire assez différente des autres adversaires que le Canadien avait affronté à date cette saison. Les Maple Leafs, les Oilers et les Canucks sont tous des faiblesses défensives, disons, pour être poli. Et une grande force de frappe à l'attaque pour chaque équipe avec des éléments, des trios particulièrement dangereux. Les Flames sont un peu plus bâtis comme le Canadien, avec un peu plus d'équilibre. Un peu plus axé sur la défensive, une meilleure défensive que les trois autres équipes que le Canadien a affrontées. Alors, j'étais curieux de voir si le style de Claude Julien allait changer, étant donné qu'il était à domicile, étant donné qu'il avait contrôle des affrontements. Et je dois dire que j'étais un peu surpris et c'était comme... C'était une bonne surprise, en fait, de voir que Claude Julien a resté avec le plan, a pas surtaxé personne. Le temps de jeu était très équilibré entre tout le monde. Et même les affrontements, tu sais, Philippe Dano et Nick Suzuki ont pas mal partagé la tâche entre les deux premiers trios des Flames, mettant en vedette Elias Lindholm et Sean Monahan au centre. Où c'est difficile à déterminer c'est vraiment lequel le plus dangereux. Alors, il a reparti les minutes.
Ouais.
Et je dis bravo, je dis chapeau, parce que je pense que Claude Julien reconnaît la force de cette équipe-là. C'est effectivement la capacité de bien distribuer les minutes de jeu, le temps de glace, garder tout le monde sharp et assurer que tout le monde a un bon repos pour être capable d'effectuer l'échec avant qui est comme l'esprit de cette équipe-là en ce moment. Puis on l'a vu encore, les Flames de Calgary ont commis beaucoup d'erreurs. Je pense que c'est causé par la pression que le Canadien exerce présence après présence. Puis on l'a vu contre toutes les autres équipes que le Canadien a affrontées cette saison, qu'il provoque des erreurs très souvent. Alors, dans ce sens-là, c'était pas très différent contre Calgary.
Tu parles de la répartition de l'utilisation, en fait, des principaux trios, entre autres Philippe Dano. Ça m'intrigue. J'ai l'impression que, tu sais, tout va bien dans l'univers du Canadien. Tout est rose, etc. Mais j'ai comme l'impression que Philippe Dano, c'est comme le seul petit élément où il y a quelque chose qui n'est pas complètement enclenché dans son cas. J'ai l'impression qu'il y a une partie de son jeu qui cherche, je ne sais pas, c'est assez étonnant qu'il ait été utilisé moins en infériorité numérique dans le dernier match que Jake Evans, par exemple. Mais même à 5 contre 5, c'est bon, son trio a eu par moment a eu des bons matchs offensivement lors du voyage dans l'Ouest canadien. Mais est-ce que je me trompe ou il y a un petit oomph qui manque en ce moment chez Philippe Dano?
Non, je pense pas que tu te trompes. C'est, je le vois aussi. Je dis pas qu'il joue mal. C'est juste que quand toute l'équipe joue tellement bien, je pense que c'est plus facile que pour Philippe Dano de se perdre dans ce groupe-là. Parce que, tu sais, d'habitude, il se démarque à cause du fait que c'était de loin le meilleur joueur de centre de l'équipe. C'est plus le cas. Il est peut-être toujours le meilleur joueur de centre, mais c'est pas de loin. C'est un argument que tu pourrais très bien discuter que c'est déjà Nick Suzuki le meilleur joueur de centre de cette équipe-là. Mais en tout cas, c'est pas clairement Philippe Dano comme ça a été dans les années précédentes. Puis, alors, en fin de compte, pour le Canadien, c'est une bonne chose. La façon que Philippe Dano joue, il joue correct. Il joue pas mauvais. Mais vu qu'il joue juste correct et que Nick Suzuki joue très bien et même Jesperi Kotkaniemi, je pense, connaît une très bonne début de saison. Et
Ouais.
Jake Evans connaît une très bonne début de saison. Peut-être c'est lié aux attentes, peut-être c'est comme relativement aux attentes pour Philippe Dano qui est jugé là-dessus parce qu'il y a des attentes plus élevées à cause des deux dernières saisons qu'il a connues au sein de ce trio-là. Mais je trouve pas de faille dans le jeu de Philippe Dano. Je trouve juste qu'il est bien entouré pour la première fois et que son temps de glace, c'est un reflet de ça. Et c'est un reflet du fait que le trio de Nick Suzuki avec Josh Anderson et Jonathan Drouin provoque beaucoup de choses en attaque et très dangereux souvent. Et qu'ils n'ont pas besoin de. Le trio de Philippe Dano doit plus jouer le même rôle qu'il jouait auparavant, où souvent c'était pour couper le momentum de l'autre équipe, c'était pour donner un répit à Carey Price ou aux défenseurs parce que la rondelle était dans leur zone souvent. Tu sais, c'était vraiment un trio qui était clairement le premier trio. Puis là, c'est
Ouais.
plus le cas. Là, c'est un de trois trios dans le top 9 ou qui peut être le meilleur. Ça peut changer d'un match à l'autre. Alors, pour l'équipe, c'est une bonne chose, mais je serais curieux de savoir ce que Philippe Dano pense de ça. Mais vu qu'on ne le parle pas trop souvent, on ne peut pas lui demander.
C'est assez fascinant, hein? Écoute, toute la dynamique des relations médiatiques en ces temps de pandémie. Bon, évidemment, tous les auditeurs, vous êtes bien au courant qu'on parle aux joueurs à tous les jours par appel Zoom. Ça change vraiment la façon dont on aborde différents sujets avec eux et aussi la fréquence à laquelle on peut leur parler. Et je pense que dans le cas de Philippe Dano, on ne lui a pas parlé depuis le lendemain du premier match. C'est quand
Je
même.
pense une autre fois, si je me trompe pas. Mais c'était après un match, c'était un post-game, puis t'es un peu limité à ce que tu peux demander. Mais je pense qu'il y a une autre fois qu'on l'a parlé depuis ce temps-là.
Ouais, et.
Mais Mais on s'entend que c'est un gars avec qui on jase souvent. C'est un gars qui est tout le temps là. Et c'est un gars où tu peux attendre que les caméras et les micros partent et tu peux aller lui demander des questions sur des sujets un peu plus délicats ou sur des petits trucs de stratégie dans le match. Tu sais, moi, je le faisais tout le temps. Tu sais, des trucs sur le forecheck ou des petites comme hockey nerd questions là, comme j'ai souvent. Philippe, c'était un de mes gars que j'allais visiter souvent pour demander ces questions-là, puis pour expliquer ce qu'ils font en infériorité. Il était très bon pour m'expliquer ces choses-là. En fait, c'est bien qu'on tombe sur ce sujet-là parce que, tu sais, on a notre calepin de notes qui sort chaque vendredi. C'est sorti maintenant quand tu peux aller le lire si tu veux. Mais il y a une petite histoire là-dedans sur Jesperi Kotkaniemi qui apprenait quelque chose de Shea Weber et Thomas Tatar après un entraînement. Et je mentionne ça seulement pour dire que par le passé, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait vu cet épisode-là pendant l'entraînement. Puis après l'entraînement, on aurait pu juste aller voir ou Kotkaniemi ou Tatar ou même Weber et juste demander sans micro, sans caméra, sans rien, hey, de quoi tu parlais après l'entraînement? Si ça ne te dérange pas de le partager, qu'est-ce que tu montrais à Keke après l'entraînement? Puis, un des trois aurait avec plaisir nous aurait dit qu'est-ce qu'il parlait, qu'est-ce qu'il expliquait, qu'est-ce qu'il montrait, et ça aurait donné un autre détail à ce petit épisode de l'entraînement qu'on a mentionné dans le calepin. Mais ouais, sans cet accès-là, on peut pas facilement demander sur un Zoom avec 2 jours plus tard. Hey, tu te rappelles mardi après l'entraînement, là, tu sais, c'est un élément de détail que les auditeurs dans ce cas-là, mais nos lecteurs et les fans en général, ils manquent ça, ils perdent ça. Alors souvent, quand les partisans disent « Ah, ben tant mieux que t'es pas dans le vestiaire, c'est meilleur pour les joueurs. » Oui, c'est vrai, c'est meilleur pour les joueurs, mais c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour les fans aussi parce qu'il y a tellement d'informations qu'on peut cueillir en étant capable de juste s'asseoir à côté du joueur sans micro, sans rien et juste parler avec lui juste pour demander des questions, puis on n'a pas cette chance-là. Alors, je pense que cette semaine, on l'a vu et effectivement, dans le cas de Philippe Dano, c'est sûr, rendu là, qu'on ait eu cette discussion-là si on avait le droit dans un vestiaire, mais on ne peut pas vraiment le faire sur Zoom parce que c'est un peu plus délicat de dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de tes minutes, là? »
Ouais. Ouais, effectivement, c'est ça. Quoique Philippe Dano, ce qui le rend si rafraîchissant puis si facile à aller consulter, c'est que c'est un gars qui a toujours eu une très, très bonne franchise dans ses propos. Bon, c'est pas le gars qui a nécessairement le plus grand filtre, mais tu sais, il appelle un chat un chat. Puis ça, c'est très agréable parce que tu sais, l'environnement du Canadien est tellement aseptisé, il y a tellement de gens qui sont sur leur garde, des joueurs qui sont passés dans l'organisation du Canadien puis qui ont mis des années à se remettre de cette espèce de vernis-là que le Canadien avait appliqué sur leur relation avec les médias, que Philippe Dano, lui, est un petit peu contraire à cette mouvance-là. Puis ça, c'est très, très agréable parce que c'est un gars qui gêne pas pour donner le fond de sa pensée, puis ça fait en sorte que en bout de ligne, il s'en sort pas plus mal, puis il continue. Je pense qu'il a le respect de tout le monde à cause de ça. Écoute, c'est un... jusqu'à maintenant, c'est quand même assez intéressant. C'est un début de saison qui est au-delà de toutes les espérances. Et ce que je sens chez le Canadien, c'est qu'on a... même si le Canadien est encore invaincu en tant que réglementaire après 7 matchs, même si ses unités spéciales sont extrêmement productives, entre autres en infériorité numérique. Tu sais, 5 buts en infériorité numérique en 7 matchs, c'est assez exceptionnel. Malgré le fait qu'en apparence, tout va bien, ce qu'on sent beaucoup chez le Canadien, c'est une espèce de méfiance à l'égard de s'installer dans une forme de complaisance puis se dire justement que tout va bien. Et le mot d'ordre, c'est de dire... Il n'est pas question qu'on lève le pied de l'accélérateur. On a encore beaucoup de choses à régler, beaucoup d'améliorations à apporter à l'équipe. Puis, il faut rester vigilant pour justement éviter qu'on tombe dans certains pièges, entre autres au plan défensif, qui ferait en sorte qu'on ouvrirait la porte à l'adversaire pour finalement gagner des matchs à nos dépens puis perdre des points qui demeurent à notre portée. Alors, ça m'a vraiment frappé après le match contre les Flames jeudi soir, d'entendre les joueurs dire attention, on est encore. Il faut qu'on reste vigilant par rapport à tout ça.
Mais ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que. Écoute, ils ont eu beaucoup de temps cette semaine. Ils n'ont pas joué toute la semaine avant jeudi. Alors, ils ont deux entraînements de suite, ce qui va être rare cette saison. Mais le premier de ces deux entraînements-là, Claude Julien s'est axé quasiment complètement sur le jeu défensif, le jeu en zone défensive, le jeu en transition, comment défendre contre des surnombres et toutes ces affaires-là. C'était quand même à peu près 45 minutes de travail exclusivement presque sur l'aspect défensif de leur jeu. Puis là, ils sortent jeudi, puis ils ont joué probablement leur meilleur match défensif de l'année. Là, c'est quand même encourageant de voir que l'entraîneur décide de mettre l'emphase sur quelque chose et l'équipe sort au prochain match, puis met ces choses en place. Et il démontre une amélioration dans cet aspect du jeu sur lequel l'entraîneur voulait mettre l'emphase. Alors, ça, c'est quand même, ça montre une certaine discipline, ça montre une certaine sérieux de cette équipe-là que oui, ils étaient 4-0 et 2 sans avoir joué un seul match chez eux. Mais ils ont pris ça au sérieux. Ils ont incorporé les changements que Claude Julien voulait incorporer. Puis ils les ont mis en marche. Puis ça donnait le résultat que ça donnait. Même si les joueurs n'étaient pas complètement satisfaits. Puis ils ont raison parce que c'est effectivement les unités spéciales qui ont vraiment permis à prendre cette grande avance-là. Puis une fois que tu mènes par 4-0, tu ne joues pas de la même façon. N'importe quelle équipe va faire la même chose. Mais c'est quand même le fait que les Flames n'avaient pas beaucoup d'opportunités de l'enclave, pas beaucoup d'opportunités en transition, montre à quel point le groupe était prêt à écouter leur coach et de faire les changements nécessaires pour changer cet aspect-là. Là, il va falloir juste que les autres aspects se mettent en ligne puis que tout soit packagé bien pour plus tard cette saison-là.
Mais tu parles de discipline, puis de sérieux, puis d'écoute de l'entraîneur. Je pense qu'il y a aussi là-dedans le fait que... Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est étonnamment une machine bien huilée. On est si tôt dans la saison, puis il a tellement été question du fait que le Canadien avait plusieurs nouveaux éléments qui s'intégraient à sa formation, puis que ça allait peut-être nécessiter une certaine période de transition, alors que ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été une transition... en douceur dont my God, Joe Biden aurait rêvé aux États-Unis. Mais je pense que là-dedans, quand je parle d'une machine bien huilée, c'est justement que pour qu'un groupe qui est quand même relativement nouveau à travailler ensemble prenne des directives de l'entraîneur un jour donné et le mette en application dès le lendemain, ça veut dire qu'il y a tout un travail qui a déjà été fait en amont, qui a été compris, qui a été assimilé puis qui est déjà mis en application pour que là, on fasse, en guillemets, du fine-tuning, qu'on corrige tout de suite des aspects et qu'on envoie le résultat pas dans 5 matchs, pas dans 10 matchs, mais dès le lendemain. Je pense que c'est de très, très bon augure pour le Canadien. C'est de bon augure aussi pour le fait que le groupe qui est en place, tu sais, je pense pas que ça va prendre. C'est pas dès la première défaite que Claude Julien va dire oh my God, on va changer, il faut absolument qu'on apporte des changements à notre formation. Mais dans tout ça, ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui attendent leur tour, qui vont peut-être devoir attendre leur tour à cause jusqu'à ce qu'il y ait des blessés. Et à ce sujet-là, je voulais nous amener sur le terrain d'une question qu'un de nos auditeurs nous a posée à l'égard de Ryan Poehling, qui est présentement sur l'escouade de réserve, sur le fameux Taxi Squad. Alors, sans plus tarder, on va écouter ce que notre auditeur a à nous dire. Et s'il vous plaît, pour usage futur, nommez-vous comme ça. On aimerait ça savoir qui vous êtes. Alors, la prochaine fois, ben, nommez-vous. Mais écoutons le commentaire et la question de notre auditeur, puis on vous revient après.
Salut Marc-Antoine, salut Arpin, j'espère que ça va bien. Je vais prendre les premières secondes juste pour vous féliciter pour votre bon travail. Toujours un plaisir de vous lire sur The Athletic, puis de vous écouter bien sûr sur le sport athlétique. J'aimerais qu'on parle de Ryan Poehling et de son développement. J'ai comme l'impression que Ryan Poehling, ça serait plus efficace en fait de le voir à Laval sous les ordres de Joël Bouchard. Je considère que pour son développement, ça serait plus formateur pour lui de jouer des matchs sur une base régulière, faire face à la compétition, puis peut-être également gagner en humilité. J'ai l'impression que le taxi squad pour Peerling, il y a pas tous les outils pour se développer comme on le souhaiterait. Oui, il est avec le grand club, il voit des professionnels travailler au quotidien, il familiarise avec le style de jeu du CH, mais le plus important, soit le contexte de match, il vit pas. Moi, je pense que c'est pas l'idéal pour un ancien choix de première ronde qui est seulement âgé de 22 ans. Fait que, selon moi, je sais pas, pourquoi pas mettre un gars comme Jordan Wheel, monsieur Powerplay, qui serait plus sur l'escouade d'urgence selon moi. Là, c'est sûr que vous allez me parler de son gros contrat de 1.4. Ok, je suis d'accord. Alors, pourquoi pas y aller avec Laurent Dauphin, qui a 25 ans, ou Alex Belzile, qui a déjà joué au centre. Puis, il y a aussi Michael Frolic, qui joue au centre à Buffalo. En cas de blessure, il pourrait être bien utile. Bon, c'est sûr qu'une blessure au centre avec le CH, ça ferait mal, mais j'ai pas l'impression que Peerling serait une solution. Pas pour le moment, en tout cas. Moi, je pense qu'il faudrait lui permettre de jouer des matchs puis faire face à ses lacunes avec Joël Bouchard puis de travailler sur ses problèmes. On parle du succès que Bouchard a eu avec Evans, alors pourquoi il pourrait pas connaître le même succès avec le bon vieux Ryan Peerling? Et c'est ça pourrait être une autre réussite de développement dans le cas de Joël Bouchard, en tout cas, je lui souhaite. Donc voilà, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Salut les gars, bye.
Bon, ben notre auditeur soulève un très bon point, puis en fait, ça arrive justement le moment parfait, parce qu'on a parlé à Ryan Peerling aujourd'hui à ce sujet-là, et on a parlé à Claude Julien aussi là-dessus, et c'est intéressant parce que Claude Julien avait pas donné l'impression que il y avait grand-chose qui allait changer de ce côté-là, ni avec Ryan Peerling, ni avec Cale Fleury, même si le camp de Rocket est en cours, même si c'est dans la même ville, même si ça serait assez facile pour Peerling et Fleury d'aller au camp du Rocket, mais ça n'a pas l'air qu'on peut s'attendre à le voir jusqu'à temps qu'on commence des matchs à Laval, mais je pense que le point de l'auditeur est évidemment... est très bonne. C'est quelque chose que nous aussi, on pensait. On a pris pour acquis à un moment donné que Jordan Wheel allait être le joueur sur le taxi squad, ce qui n'est pas le cas. Et pour une raison salariale qui est quand même assez compliquée, mais là, c'est presque impossible qu'on va voir Jordan Wheel sur le taxi squad et encore moins dans l'alignement, c'est certain, juste à cause du contrat que l'auditeur a mentionné. Mais dans le cas de Peerling, c'est vrai qu'il peut apprendre beaucoup dans les entraînements, mais c'est aussi très vrai qu'il faut qu'il joue. Puis je peux pas voir un scénario où le Rocket de Laval commence à jouer des matchs puis Ryan Peerling n'est pas en uniforme avec Laval. Ça, est-ce que ça se non. peut? Ça se peut-tu?
Moi, je pense pas. C'est juste que, écoute, ce qui m'a frappé, quand Claude Julien a dit « Ah, ben là, tu sais, le Rocket est dans son camp d'entraînement encore, Peerling va rester avec nous », je comprends, mais les journées passent, puis c'est un petit peu... faut pas oublier que la Ligue américaine a annoncé le début de son calendrier, qui n'est pas sorti, soit dit en passant. On enregistre le podcast vendredi après-midi. La Ligue américaine n'a toujours pas émis son calendrier, mais son intention, claire, nette et précise, c'est de démarrer ses activités le 5 février. On est le 29 janvier, donc on parle dans une semaine.
Ah.
Alors, d'ici, ce que ça veut dire, une semaine dans l'univers de Claude Julien, c'est long. Alors, pour la prochaine semaine, Ryan Peerling va rester là. Il n'a nulle part où aller. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Une fois que le Rocket va avoir commencé à jouer des matchs, je m'attends à ce qu'il retourne là-bas parce que c'est extrêmement important pour lui qu'il joue des matchs. Il serait tout à fait admissible par la suite à être appelé, sauf que c'est prioritaire pour les meilleurs espoirs de l'organisation qu'il puisse jouer des matchs. C'est juste qu'en ce moment, entre être au camp d'entraînement du Rocket à Brossard et puis patiner autour de Otto Leskinen et puis de Joel Teasdale ou bien d'apprendre de Michael Frolic, d'apprendre de Corey Perry, de tous les autres joueurs du Canadien. Parce que ce qu'il faut préciser ici, c'est que les joueurs de l'escouade de réserve ne sont pas mis à part. Hein, ils sont complètement intégrés dans toutes les activités de l'équipe, même vestiaire, même entraînement, tout dans la même équipe. Je pense que pour l'instant, en termes d'apprentissage, c'est avec le Canadien que Peerling va en apprendre le plus. Sauf que la minute que le Rocket va commencer à jouer des matchs, il faut qu'il retourne là-bas.
Oui, même chose pour Cale Fleury. C'est vraiment, c'est évident. Puis je ne peux pas croire que le Canadien ne va pas faire ça. Je suis intéressé de voir, tu sais, parce qu'ils ont des gars à Laval en ce moment qui sont quand même parfaits pour ce rôle-là. Tu sais, Jordan Wheel en étant un, Xavier Ouellet en étant un autre, des gars qui, si tu en as besoin, dans le cas de Wheel, c'est un peu plus compliqué à cause de son salaire, effectivement, mais si tu as Xavier Ouellet, tu peux facilement l'insérer dans l'alignement si jamais tu en as besoin. S'il y a deux blessés, dans le fond, ça va prendre pour que Xavier Ouellet rentre, là. Mais ce sont des gars qui sont faits sur mesure pour ce rôle-là. Si tu mettais le mot Taxi Squad dans le dictionnaire, là, je pense que tu aurais une photo de Xavier Ouellet. C'est vraiment c'est le gars parfait pour ça. Alors, alors ça reste à voir, mais je pense que tous les points de l'auditeur sont très valables, sont vrais. Je pense que les Canadiens sont au courant de ça. Et je pense pas que ça va... C'est pas une situation qui va perdurer. Sûrement pas si le Rocket commence à jouer. Parce qu'effectivement, ça va faire quasiment un an que Ryan Poehling n'a pas joué un match. Et c'est pas vrai qu'ils vont laisser un ancien choix de première ronde. Et un joueur... Tu sais, on parlait de Philippe Dano avant, là. Je pense que la situation contractuelle de Philippe Dano est très liée à quel point le Canadien... croit en Ryan Poehling, et moi j'ai l'impression qu'il croit beaucoup en lui, et Jake Evans pour jouer un rôle, un two-way, un gars qui peut jouer troisième, quatrième trio. Je pense qu'il voit un avenir avec le Canadien pour Ryan Poehling. Ils veulent qu'il développe, ils veulent qu'il apprenne Joël Bouchard, et j'ai aucun doute qu'une fois que les matchs commencent, en tout cas, je serais très surpris de voir Ryan Poehling sur le Taxi Squad et le Rocket de Laval sont en train de jouer des matchs, là. Je pense pas que ça va arriver.
Ouais, c'est ça, notre auditeur nommé entre autres Laurent Dauphin, je pense que c'est un bon candidat pour le remplacer. Ça va être important que le Canadien ait un joueur de centre en réserve sur son escouade de réserve si Jordan Wheel, comme tu l'expliques, là, n'est pas le gars rappelé. Laurent Dauphin est capable de jouer à l'aile comme au centre, fait que ça le rend un candidat intéressant. Je pense que Joseph Blandisi, qui a une certaine expérience de la Ligue nationale, puis qui est plus à 26 ans un espoir, me semble aussi un candidat possible. Écoute, avant de passer à notre invité, j'aimerais simplement t'entendre sur notre minute du patrimoine. On veut se tourner vers des dossiers qui touchent d'autres équipes canadiennes, donc des rivaux directs du tricolore. Où se porte ton attention cette semaine, Arpin?
Moi, mon attention est portée sur les Sénateurs d'Ottawa. Écoute, ils ont bien commencé la saison. Et en fait, j'étais encouragé pour eux parce que, tu sais, une saison où il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de pression, il y a une jeune équipe, c'est quand même une situation idéale pour les Sénateurs. Et tu voyais Brady Tkachuk qui sortait en public, tu disais, nous, on espère faire les séries, c'est ça notre but, on croit qu'on peut, on va essayer de le faire. Puis je suis comme, good, c'est bon ça. Alors là, tu sais, ça va rendre la division encore plus intéressante parce que les Sénateurs vont vraiment venir changer la donne un peu de tout ce que tout le monde prédisait pour cette division-là. Et ça a duré genre 3 matchs. Puis finalement,
ouais, c'est ça.
Puis finalement, la lune du miel est terminée à Ottawa. C'est pas mal les Sénateurs qu'on s'attendait voir. Ce qui est plate pour eux autres, mais je pense que ça va rendre... Je pense que l'amélioration des Sénateurs au fur et à mesure que la saison avance va avoir un impact sur le classement dans la division. Parce que c'est pas vrai qu'ils sont aussi bons qu'ils étaient au début de la saison. C'est pas vrai qu'ils sont aussi mauvais qu'ils ont démontré les 2-3 derniers matchs. À un moment donné, ces jeunes-là vont s'améliorer. Alors, je pense que des équipes qui ont des matchs contre les Sénateurs plus tôt dans la saison ont comme un petit avantage dans la division.
Oui.
Comparé aux équipes qui les affrontent plus souvent tard dans le calendrier, comme le Canadien, entre autres, mais c'est une équipe qui risque de le plus changer d'ici la fin de la saison. Et vu que c'est une situation quand même en évolution, il risque d'avoir un impact un peu plus sévère sur les classements plus tard en saison.
Oui, c'est un excellent point que tu apportes par rapport au fait d'affronter les Sénateurs plus tôt en saison plutôt que tard. Écoute, moi, de mon côté, je regarde, tu parles de classement. Il y a un classement qui ne ment pas au hockey, et c'est le différentiel entre les buts pour et les buts contre. Puis souvent, ce classement-là, ton différentiel en dit long sur ta position au classement, puis qui fait les séries, qui ne les fait pas. Évidemment, sans surprise, c'est le Canadien qui domine la saison, la section canadienne à ce niveau-là. Mais vient ensuite les Jets de Winnipeg. Et je trouve ça assez intéressant de voir. Ils ont connu un très, très bon début de saison. J'ai hâte de voir quel va être l'impact de Pierre-Luc Dubois au sein de cette formation-là, parce que ce qu'on a entendu à la suite de l'échange, c'est que les joueurs sont déçus du départ de Patrick Laine. Je pense qu'ils avaient perçu chez lui un nouvel engagement, une nouvelle attitude en arrivant cette saison. Évidemment, Laine s'est blessé après un seul match, mais quel premier match il avait connu. En son absence, les Jets ont été capables de marquer plusieurs buts. Et là, il s'agit de voir de quelle manière Pierre-Luc Dubois va s'intégrer dans le décor. Mais c'est sûr que on dirait que ça n'a pas été très, très bien accueilli à Winnipeg, cette transaction-là. Donc, j'ai hâte de voir si ça va avoir un effet positif ou négatif sur une équipe qui connaît un bon début de saison et qui a la chance, si on regarde la façon dont les choses, les pions se placent en début d'année, qui a la chance de damer le pion, justement, entre autres aux deux équipes de l'Alberta. Edmonton et Calgary, les choses ne vont pas super bien. Entre autres, à Edmonton, écoute, je pense pas que ça va du tout de la manière dont ils l'auraient espéré au départ. C'est une des rares équipes qui en arrache à domicile depuis le début de la saison. Le Canadien a quelque chose à y voir. Mais si Winnipeg peut prendre ses distances par rapport aux Oilers et aux Flames de Calgary, ça pourrait faire une différence dans le classement cette année. Alors, j'ai hâte de voir. Ça a tellement été une saga en début de saison, cette histoire-là du Dubois. Alors, on va voir l'occasion de le voir souvent, puisqu'il va affronter le Canadien de multiples reprises cette année. Restez des nôtres. Dans un instant, notre invité, Michel Lacroix.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Bon, et re-bienvenue tout le monde au Sport Athlétique. Je suis Arpit Basu avec Marc-Antoine Godin et nous sommes très heureux d'accueillir notre invité Michel Lacroix après sa première journée de vrai travail dans plusieurs mois. Hein? Je te niaise, évidemment. Mais bienvenue, Michel. Bienvenue au Sport Athlétique.
Merci. Oui, première journée de travail un peu particulière, on va dire, du côté du Sorbel, parce que ailleurs ça bouge beaucoup.
Mais écoute, d'entrée de jeu, Michel, j'aimerais savoir, évidemment, il n'y avait personne dans l'amphithéâtre. À quel point ça a été étrange pour toi d'être annonceur maison puis annoncé pour à peu près personne?
Mais écoute, d'abord, il faut préciser que mon bureau a changé de place. Je ne suis plus au bord des pénalités. Je me retrouve dans une espèce de nouvelle régie des communications qui est installée dans la section 109. Alors, pour ceux qui sont habitués un peu au Centre Bell, je me retrouve à être au milieu de la section qui est à la gauche dans le coin, là où on retrouve Carey Price à deux occasions pendant le déroulement d'un match. Alors déjà là, la perspective est complètement différente. Je dois dire que c'est la première fois depuis que je suis avec les Canadiens et je remonte jusqu'à 77, c'est la première fois que je me retrouve là pour travailler. Ça, c'est déjà un environnement complètement différent. Le fait qu'il n'y ait pas personne dans les estrades, c'était hallucinant, je dois t'avouer. Et le son n'est pas pareil. On a perdu beaucoup de repères et c'était d'abord et avant tout. Et on était allé en période de préparation et de répétition quelques jours plus tôt. Mais une répétition, c'est jamais comme dans la vraie vie. Là, on va en plus gérer tout ce qu'il y a comme soirée inaugurale pour des matchs à domicile au cours d'une saison. Alors, le défi était double, triple. Il y avait une foule de détails, mais je dois t'avouer que c'était effectivement là, tellement spécial. Et puis, même ne serait-ce que pour nos déplacements à l'intérieur de l'édifice, il y a une foule de gestes qu'on pose, des automatismes qu'on n'a pas fait hier à l'occasion de ce match d'ouverture. Des endroits où on pouvait passer, où on ne pouvait plus aller, des gens qu'on pouvait facilement, auxquels on pouvait facilement accéder pour des questions. Ça aussi, on est obligé de réviser nos positions. Donc, à plusieurs égards, c'était assez spécial. Et ne serait-ce qu'au niveau de la sonorisation comme telle. Un amphithéâtre qui généralement contient 21 000 et plus spectateurs. Et là, avec peut-être, je ne sais pas combien il y avait de personnes à l'intérieur, disons quelques centaines au plus, tout au plus.
Quelques douzaines,
disons. Ben, le son était tellement, tellement différent. Il y avait beaucoup d'écho. C'est une des rares fois où, c'est la seule fois où je portais des écouteurs hier pour faire les annonces, pour être sûr que ma qualité de son était correcte, pour éviter qu'il y ait un peu d'écho, des réverbérations, parce que souvent, quand tel est le cas, on va y entendre nos paroles en parlant, et au bout d'un certain temps, on a presque l'air de quelqu'un qui a tombé dans le dry martini, alors il faut faire attention pour les annonceurs. Bref, tout ça, là, ça a été ça a été costaud.
Oui, puis, tu sais, juste pour informer nos auditeurs, moi, je t'avais appelé mercredi avant que tu savais comment ça allait être, puis je sais qu'une de tes questions, disons, c'était que comment est-ce que je peux dire « accueillons les Canadiens » quand il n'y a personne dans l'édifice. Et moi, le moment où j'ai ri hier soir, c'était tu sais, ta voix, c'est tout le temps, c'est l'élément déclencheur du match. C'est « mesdames et messieurs, bienvenue au Centre Bell ». Et là, pour moi, ça veut dire que le match, c'est bientôt. C'est vraiment le moment de la soirée qui dit « OK, game time ». Alors, hier soir, je l'ai entendu. Mesdames et messieurs, bienvenue au Centre Bell. Je suis comme, oh wow, Michel nous parle. Nous, les journalistes. Oui. Il parle aux journalistes. C'est tellement gentil qu'il nous souhaite la bienvenue. Mais je sais que tu avais une certaine crainte que c'est un peu ridicule, mais est-ce que tu sentais ridicule ou est-ce que ça sentait normal faire ton annonce de pregame comme d'habitude?
Écoute, je t'avoue que cette annonce-là, souvent, va dicter un peu de la façon dont la soirée va se dérouler. Quand on est assis au Centre Bell, au banc des pénalités, que la période de déchauffement a été faite, tout ça est réglé. On a vu les joueurs, il y a déjà du monde à l'intérieur. On a vu les joueurs de l'autre équipe. On a senti la présence, par exemple, des amateurs des Maple Leafs ou des Bruins de Boston. Je suis capable de véritablement tester là quel genre de foule on va avoir et quelle va être la réaction de la foule. Quand je dis « Mesdames, Messieurs, bonsoir » et que le match est contre les Bruins, tout de suite, on sent que la situation est différente. La même chose pour Toronto ou pour les anciennes équipes ou pour les grosses équipes comme disons, Tampa Bay ou les Penguins de Pittsburgh. Là, hier, je me disais « Bon, j'ai pas ce retour-là. Parce que la foule peut donner de l'énergie tout de suite en partant. Il n'y en avait pas. J'ai dit, bon, OK. Alors, je savais à quoi attendre. Il n'y a pas de réaction. Et même s'il y a des réactions de foule virtuelle, ça ne donne jamais le même impact. La fibre des spectateurs, on l'entend. On peut vraiment le sentir. Là, il n'y avait rien. Je me suis dit, bon, ben ça me faisait penser qu'à une certaine époque, quand je suis arrivé à la radio et qu'on faisait des bulletins de nouvelles, et on appelait ça les bulletins de nouvelles pour les caribous, parce que c'était envoyé dans le Grand Nord canadien, puis c'était une obligation du CRTC à l'époque. Et je me disais, je fais un bulletin de nouvelles de 3 minutes qui va peut-être être entendu par 4 personnes. J'ai eu le même feeling hier en disant « Messieurs, bonsoir et bienvenue au Centre Bell ». Parce que selon les visiteurs, s'il y a une animosité entre, je te donne un exemple comme ça, Canadiens Bruins, c'est sûr que je veux dire, entre les Bruins de Boston, un peu les faire sentir inconfortables. Ouais, et vos ça. Canadiens, là on ne peut pas faire ça, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Alors ça, c'était la première chose. Le reste, je dois dire que souvent, dans les cérémonies au cours desquelles on commence la saison et on présente les joueurs, ça aussi, c'est important parce que là, on peut jouer avec la foule. C'est la foule qui dicte aussi un peu ses favoris. Quels sont ses favoris? Il y a des joueurs, Brendan Gallagher, c'est sûr, qui va être chaleureusement applaudi. Carey Price, la même chose. Alors, on laisse traîner les applaudissements, la foule embarque, et ça donne là aussi une allure différente à la présentation. Ça aussi, c'était manquant hier. On aurait, parce que ils étaient chronométrés, on n'avait pas le choix. Et tu sais, ça aussi, quand je dis là, c'est quelque chose qui nous manque, ben ça n'était un autre bon exemple. Tu sais, ne serait-ce que la présentation des médecins, tout le monde a senti que c'est important de parler des médecins, du Dr Mulder, qui est une espèce de légende, littéralement, ouais, dans l'entourage des Canadiens. Ben, je suis sûr que les gens auraient bien répondu s'il y avait eu des amateurs dans les estrades. Ça aurait été vraiment quelque chose de différent. Là, c'était OK. T'sais, on passe à autre chose.
Ouais.
C'est comme...
Mais à quelque part, est-ce que le fait que la présentation des joueurs a été faite par du personnel de soins de santé, des gens de première ligne. C'est un bon coup de chapeau, d'ailleurs, de la part de l'organisation.
Ah, tout à fait.
Mais le fait que ce soit fait sous format vidéo et que ce soit finalement adapté d'une certaine manière plus à la télévision qu'à l'événement sur place, ça t'a peut-être ôté un beau malaise, d'une certaine manière.
Ben oui, c'est sûr, parce que tu sais très bien que il y a toujours des commentaires, ben vous auriez dû laisser la foule applaudir davantage, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. Mais tu sais, quand tu es au bout du compte, le seul juge à savoir, bon, est-ce qu'on coupe des applaudissements, oui ou non, ou peut-être, tu sais, il y a des impératifs, effectivement, vidéo, mais je pense que l'idée est excellente et on en avait déjà parlé à quelques occasions dans le passé, de me bâtir une espèce de chorale pour véritablement donner une image de ce que sont nos amateurs, nos fans, âgés, grands-pères, oncles, tantes, cousins, des enfants, des ados, des hommes, des femmes, bref, le portrait global, ça s'est bien fait et c'était, je pense, c'était très apprécié. En tout cas, les commentaires que j'ai eus de cette présentation-là, les gens ont été vraiment, on dit bravo, c'était bien mérité. Et c'était de mise de le faire en plus, tu sais. Mais c'est sûr que quand tu tombes dans le vidéo, t'es un peu coincé. On est coincé, comme tu dis, dans le temps, dans les impératifs de télévisuels, parce qu'on ne peut pas déborder non plus. La Ligue nous a donné des cadres qui sont quand même très stricts à respecter. Alors, il faut faire attention. Mais tant et aussi longtemps, moi, je préconise toujours de faire quelque chose en direct, peu importe, que ce soit à la radio, à la télé ou dans des événements comme ça. C'est toujours beaucoup plus facile à faire, toujours beaucoup plus facile à gérer, pour le meilleur ou pour le pire. Ils peuvent te tomber d'en face le lendemain en disant « vous auriez dû laisser les applaudissements plus là que là », mais on affronte la réalité. Moi, je me souviens, exemple, de la cérémonie pour M. Béliveau, quand on avait réglé les tout petits détails à la fin avant de se lancer dans la mêlée. Je savais que ma marge de manœuvre était absolument nulle, 0.0.0, surtout dans un événement comme ça. Puis regarde, ça s'est très bien passé. C'est un moment de silence dans lequel M. Béliveau, avec 21 000 spectateurs, qui a duré 55-56 secondes, c'est extraordinaire, exceptionnel.
Absolument.
Ça s'est bien fait. Hier, il nous manquait ce genre, il y avait quelque chose, là, c'était vraiment statique, mais on pouvait pas faire autrement.
Mais en fait, As-tu jamais vu le film The Truman Show? Je sais pas ce que ça s'appelle en français, mais c'est un film avec Jim Carrey où toute sa vie, c'est une émission de télévision.
Ouais.
Mais lui est pas au courant. J'avais l'impression que le match hier, c'était un épisode du Truman Show, particulièrement quand les joueurs arrivaient au centre de la glace puis ils levaient leur bâton aux foules, mais pas vraiment. Là, c'est comme,
ouais.
Ça avait l'air qu'on était dans une émission de télévision. Et tu faisais partie de cette émission de télévision-là. Dans le fond, tu étais le narrateur d'une certaine façon. Est-ce qu'il fallait que tu comprends ou est-ce qu'il fallait que tu sois conscient du fait que tu étais là surtout pour les téléspectateurs et non pour, évidemment, les personnes qui n'étaient pas là?
Définitivement. Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait pour les gens qui étaient à la radio et les gens qui étaient à la télévision.
Mm-hmm. Change en quelque sorte la façon que tu fais ton...
Ça a changé, oui, parce que tu vois, l'annonce d'un but, généralement, les mentions d'assistance, quand elles sont annoncées, arrivent après les applaudissements de la foule qui est au Centre Bell. Alors, c'est sûr que si l'annonce, par exemple, de Anderson, de Toffoli, en désavantage numérique, il y aurait eu une réaction. Puis, et là, c'est à ce moment-là que tu peux jouer. Et c'est ça qui est agréable. Et quand je parle souvent de les annonceurs, ce qui est important, c'est de gérer des émotions. Mais là, l'émotion est nulle. T'sais, c'est sûr que tu peux... C'est comme si tu t'installes dans une cabine, un booth d'annonceur et que tu es à l'extérieur d'une... Tu sais, c'est deux réalités. Et ouais. C'est ça qui rend toute la situation difficile. Même si je l'avais fait pendant qu'ils étaient dans la bulle, je l'avais fait sur Twitter, mais ça, c'était vraiment, tu sais, à la blague et puis c'était bon enfant. Mais là, c'est un vrai match. On était dans le Centre Bell et c'était aussi, il ne faut pas l'oublier, j'ai l'impression que ça va s'améliorer. L'empaquetage va s'améliorer parce que si on regarde les premières parties qui avaient été présentées dans des bulles à Toronto et à Edmonton, il y avait des éléments techniques là, qui étaient oui, non, peut-être, ça, il va falloir faire attention à ça. Réaction de foule, bref. Mais tu sais, tout ça, c'est it's a work in progress.
Ben
on
oui,
va absolument. Devoir... Et déjà, il y a des éléments techniques sur lesquels on a pris des notes hier et sur lesquels on va déjà travailler pour le match contre les Flames demain et puis les deux matchs lundi-mardi contre les Canucks. Mais tu sais, c'est moins évident qu'on pensait. Là. T'sais, imagine-toi la place, mets-toi à la place du DJ ou de Diane Bibeau à l'orgue, il n'y a pas de réaction non plus, là, eux autres. Là. La foule en marque pas, il n'y en a pas. Alors,
non, ben,
t'as beau présenter, mais t'as que beau Diane... mettre Van Halen dans le plancher, ça ne change rien.
Mais une chance que Diane était là, parce que dans le fond, ça donnait ton gap entre le but et la mention d'assistance. C'est la seule chose qui marquait ça, là, c'est Diane.
Oui, t'as raison.
Est-ce que tu mentionnais tout à l'heure le fait que t'étais placé dans la section 109 et tu n'es pas au banc des pénalités. Comment s'est passée ton interaction avec les arbitres?
Écoute, il n'y en a pas eu. C'était simple.
Non.
Il y a eu, on a d'ailleurs eu un petit problème de communication à cet effet-là parce que, à un moment donné, j'étais annoncé un but. Et puis, c'est ça, j'annonçais un but et Eric Furlatt, l'arbitre, attendait que je finisse l'annonce du but, a perdu patience et a fait l'annonce vite fait. Et personne n'a compris la cause de la pénalité. Alors, on cherchait. Le banc des punitions, elle ne le savait pas, puis en haut non plus. Alors là, j'étais obligé d'attendre. C'est finalement, en regardant la reprise vidéo, qu'on s'est aperçu que c'est la pénalité de Lucic pour Udess.
Oui.
Ah, OK.
Ce genre d'interaction-là, c'est sûr qu'on va devoir être beaucoup plus attentif. Il y a des petits éléments comme ça sur lesquels on va devoir être plus attentif. Puis, l'autre chose, c'est qu'il y a une collégialité au banc des punitions. Si à un moment donné, ou un ou l'autre entend plus ou moins bien ou qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi la punition, etc. Là, moi, je me retrouve tout seul. Puis eux aussi, alors, ils ont beaucoup moins de personnes. Alors, c'est des questions d'habitude de travail aussi qui vont devoir se refaire. Et ça peut être un autre élément qui, au bout de deux, trois matchs, ça va être réglé vite fait, là, mais dont on doit tenir compte. Il faut qu'on soit beaucoup plus concentré, je te dirais, pour les premiers matchs dans ces nouvelles situations-là.
Oui, c'est pas évident pour personne. Puis effectivement, moi j'étais à Edmonton pendant un mois. J'ai couvert les troisième et quatrième rondes des séries, en fait, les finales d'association puis la finale de la Coupe Stanley. Puis ça m'étonnait, en fait, en Edmonton, à quel point c'est devenu normal rapidement. Ça a pris comme deux, trois matchs avant que c'était juste un match de hockey. C'était tout à fait normal qu'il n'y avait personne dans le foule. Tout à fait normal qu'il n'y avait pas de bruit pendant les entr'actes. Tout était normal. Mais hier, en rentrant au Centre Bell, particulièrement, tu sais, mon aréna à domicile, l'aréna où je travaille, une aréna où l'atmosphère est tellement... fait partie de l'édifice, fait partie de l'âme de l'édifice. C'est l'atmosphère de la foule. C'était beaucoup plus frappant qu'à Edmonton, certainement, qu'il n'y avait personne là.
t'as beau, parce que c'est, je pense que le look est intéressant et agréable, ce que l'on a vu au Centre Bell hier, mais tu sais, t'as beau mettre les artifices que tu veux, le décor que tu veux, ce qui est important, c'est évidemment ce qui se passe sur la patinoire, et c'est ce qui dicte la ligne de conduite pour le reste. Et les gens ici connaissent bien le hockey. Le moindre petit détail va susciter des réactions chez les spectateurs. On n'avait pas ça hier. Je te donne un exemple. Je suis sûr hier que si on a des spectateurs dans les estrades, Milan Lucic, quand Milan Lucic touche à la rondelle à Montréal, il se fait huer.
Ouais, c'est ça.
Il n'y avait pas ça hier.
Non.
C'est ces petits détails-là qui font en sorte que tu dis, ah bon, OK, c'est pas tout à fait ça.
Ben, ça change l'allure du match aussi, ça change...
Ah ben oui, c'est sûr.
Le fait que Lucic n'a pas ça, et en fait, je l'ai remarqué hier, c'est la première fois que Milan Lucic joue un match à Montréal sans qu'il soit hué ou harcelé par la foule qu'il soit un objet d'attention. Ça doit être le match le plus calme que Milan Lucic a jamais joué à Montréal. Tu sais, il y a eu la punition pour Rudess, mais honnêtement, puis il a marqué un but finalement, je sais pas s'ils l'ont donné.
Oui,
à
Lucic, on lui a donné finalement.
On l'a donné, ouais.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est parce ça. Qu'il devait avoir. Ça, c'était le premier but des Flames, hein?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Puis
c'est
ça. Il a dévié, il a donné le premier but, puis je sais pas s'il a mieux joué à cause du fait qu'il n'y avait pas l'attention de la foule, là, mais je trouvais ça bizarre que Milan Lucic joue un match à Montréal sans que rien se passe avec un partisan quelconque. Là, parce qu'on a vu on a eu des incidents dans la bande de punition. Je suis sûr que tu pourrais nous en raconter des histoires de
Milan Lucic
dans la bande de punition.
Quelques bottes, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit tout ça soit racontable.
Ah, ben, nous, on a aucune restriction ici. En fait, Michel, une chose que je ne sais pas si... Marc-Antoine, avais-tu d'autres questions sur le déroulement?
Oui, absolument. Ouais, en fait, c'est hier, écoute, Josh Anderson a marqué un but, Tyler Toffoli a marqué un but, c'est le premier match à Montréal, donc ça t'a donné l'occasion de les nommer. Puis je sais que toi, c'est toujours un travail préalable pour toi de dire... Bon, de quelle manière je vais nommer les nouveaux joueurs? Quelles vont être mes intonations pour pouvoir trouver la bonne façon de présenter ces joueurs-là? Donc, ça a bien tombé que tu aies deux nouveaux venus qui s'illustrent et que tu aies l'occasion de nommer leur nom à l'occasion d'un but. Puis, je ne sais pas si... Est-ce que parmi les nouveaux venus, il y a soit des difficultés ou des défis qui se présentent devant toi, parce que c'est pas... peut-être que certaines personnes vont prendre pour acquis que, bon, ils nomment le nom, mais dans le fond, il y a des accents toniques, sur quoi tu décides d'insister, est-ce que tu veux donner une certaine musicalité à chacun des noms. Fait que quand tu regardes le groupe de nouveaux joueurs du Canadien, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Ben, tu vois, Anderson, c'était quand même assez facile, parce que je pense qu'il faut aller un petit peu avec le caractère du joueur, de la façon dont il joue. Anderson, gros avant, un gars qui fonce. Je pense que le gars méchant, le Josh Anderson, et en plus, c'est trois syllabes, alors ça se fait drôlement bien. Même chose pour Toffoli. Mais Toffoli, en plus, t'as un petit teaser avant parce que ça fait un peu italien. Bref, tu parlais de musicalité. Peut davantage y aller de ce côté-là. Alexander Romanov, ça, c'est un peu plus compliqué parce que Romanov, en principe, on devrait insister sur la deuxième syllabe, mais on est habitué ici, comme je te donne l'exemple, tu sais, Kovalev, à l'époque, moi, je disais, Kovalev. Alors, c'était sur le ko qui on mettait l'accent, mais là, ro, ce serait tellement facile de faire la même chose, Romanov, mais là, c'est au contraire Romanov qui faudrait, sur lequel il faut que j'insiste. Alors, il me reste à peaufiner celui-là un peu.
Mais comment t'as su que c'était la deuxième, c'est sur le Mac qu'il fallait que t'insistes?
Ben, il y a beaucoup de sites sur Internet qui font le travail pour nous dans à peu près une soixantaine de langues. C'est un site que j'avais trouvé par hasard. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que après avoir fait quoi 16 ou 17 Jeux olympiques et puis avoir passé le catalogue de prononciation du CIO en long, en large et en travers, au fil des ans, on prend, tu sais, il y a des choses qu'on garde en mémoire. Mais souvent, je vais aller sur des sites où ce sont, comme exemple, des Russes, où ce sont des annonceurs russes, justement, où je fais appel à des collègues qui sont à Montréal, qui sont russes ou tchèques, et je leur demande, bon, ben ça se dit comment? Comment est-ce que je devrais le prononcer? Et pour être sûr, je vais aussi généralement voir les joueurs eux-mêmes. Et eux vont dire, bon, ben OK, ça se dit comme ça, ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. Alors, je balance tout ça, et puis en tenant compte aussi de la situation à laquelle, tu sais, dans laquelle se retrouve le joueur, ben bingo, je peux l'annoncer avec, oups, je te donne un exemple. Les Italiens, tout à l'heure, je parlais de Toffoli. Je me souviens qu'à un certain moment donné, dans la Ligue, il y avait un gars qui s'appelait Dino, et tout le monde l'appelait Cicerelli, alors que moi, j'étais TQ annonceur, et j'avais dit non, c'est pas vrai, il s'appelle Dino Ciccarelli, parce que c'est de descendance italienne. Alors, c'était au forum à l'époque, Dino Ciccarelli. Et là, il y a un gars, 2-3 sièges derrière moi, qui avait dit, ça fait assez longtemps qu'il joue dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas un petit annonceur qui devrait, qui va lui dire comment prononcer son nom. Puis j'avais dit, savez-vous quoi? Le gars qui est à côté de moi, c'est un Italien. Et si jamais je dis Cicerelli, je vais me faire planter. Mais savez-vous quoi? Retournez à Toronto, appelez-les Cicerelli, mais moi, il va s'appeler Ciccarelli, puis je vais mettre l'accent au bon endroit. Tu sais, c'est le genre de choses, à un moment donné, tu dis, boum, c'est comme ça. Et en allant voir le joueur, tu élimines à peu près 75 à 80 des problèmes. Et les autres problèmes, mais comme je te dis, si tu vas sur des sites et si tu écoutes les descripteurs de jeux, qu'ils soient finlandais, tchèques ou peu importe, eux aussi vont te servir de guide. Et je me sers de ces guides-là pour éventuellement arriver à l'annonce finale, adaptée un petit peu à la Canadienne de Montréal, bien sûr.
Ben oui. Ouais. Mais non, mais je pense que beaucoup de partisans prennent pour acquis tout le travail que tu fais, effectivement, pour parce que t'es tellement constant aussi. Une fois que t'as une façon de dire, c'est Nick Suzuki, c'est le même à chaque fois, ça change jamais. Mais... Et c'est une constance qui est quand même... admirable. Tu sais, c'est pas facile de dire exactement la même façon à chaque fois.
Non. Mais tu vois, il y a des fois où la recette tient plus ou moins bien. Je me souviens, je faisais quelques joueurs, j'ai fait des annonces, puis des collègues qui journalistes ou qui disaient, sais-tu, celui-là, je l'aime moins ou je pense qu'il y a quelque chose à changer. Peux-tu, si t'étires cette syllabe-là, penses-tu que ce serait bon la recette est pas instantanée et gagnante, là. Il peut y avoir des petites corrections. La première fois que tu annonces Alex Kovalev, tu dis OK, mais il y en a qui ont été faciles et qui sont restés là, de la première prononciation jusqu'à la dernière. Sanku Koivu, ça a été boum. Il a jamais changé. Il a jamais changé quand il est annoncé à Montréal, sauf quand il jouait pour une autre équipe.
Ah oui, c'est vrai.
Mais pour le reste, et ça aussi, c'est, tu sais, il peut y avoir des petits changements.
Mais t'as changé Thomas Stetter. T'as changé Thomas Stetter.
Oui, exemple. Oui, effectivement. Mais tu sais, ça, je trouvais ça, il fallait d'abord en parler avec lui. Est-ce que ça dérangeait? Est-ce que, tu sais, parce que faut quand même être beau joueur aussi, puis dire, bon, ben, ça peut être correct une fois ou deux, tu sais. Ou, je te donne un autre exemple, je l'appelle Paul Byron, puis j'avais dit, si tu mérites la première étoile, c'est sûr que tu vas t'appeler Paul Biron. Deuxième et troisième étoile, ça va être Paul Byron, mais première, tu vas t'appeler Paul Biron, c'est sûr. Tu sais, il a dit, il n'y a pas de problème, On est capable de vivre avec ça. Mais tu sais, c'est, mais il faut, tu peux pas arriver comme ça puis sortir, tu sais. Et l'autre chose, c'est que, puis je le mentionne souvent, il faut respecter l'athlète. C'est essentiel, c'est l'élément clé. C'est le premier élément à respecter. C'est le joueur qui va te dire, bon, ben écoute, et les exemples sont nombreux, tu sais, Michael Camilleri, c'était agréable à annoncer.
Ah oui.
Mais Camilleri, la première fois que je l'avais annoncé, j'avais Mike Camilleri. Après le match, on va le voir, puis on se parle, son père est là et tout ça. Il dit, si tu... Il dit, ma mère m'a appelé Michael. Est-ce que ça te dérangerait de m'appeler Michael? Pas du tout. Au contraire, il n'y a pas de problème. Même chose, je te donne un autre exemple. Chris Higgins, quand Higgins a joué chez nous. Christopher Higgins. Alors, va pour Christopher Higgins. Mmh. C'est la demande du joueur qui va dicter là où il faut que tu t'en ailles. Ça aussi, c'est un autre élément important. Parlons, tu sais, les premières fois que Plekanec est arrivé ici, il y a beaucoup de gens qui l'appelaient Plekanec, bon, on disait Plekanec. Alors, en tchèque, ça se dit comment? Plekanec. OK, alors, tu vas t'appeler Plekanec pour le restant de tes jours au Centre Bell. Ça ne changera jamais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Puis, je donnais d'autres exemples. Tu sais, on a eu Yannick Weber, puis on a Shea Weber. Un vient de l'Ouest canadien, et l'autre vient de Suisse, c'est sûr que tu ne prononceras pas Weber, je me verrai mal dire chez Weber, mais Yannick Weber, oui. Mais il y a d'autres exemples, il y en a plein. Tu sais, c'était Cristobal Huette. En principe, il y avait le T-E chez eux, prononce le T, alors je disais, bon, OK. Même si la plupart du temps, on n'entendait pas le T quand à la toute fin de son nom, je prononçais Cristobal Huette. Comme je disais, la première étoile de First Star, Patrick Roy, et non pas Patrick Roy. T'sais, le Roy, là, non. Patrick Roy.
Ouais, le E n'est pas une initiale.
Ouais, c'est exactement. Oui, vas-y.
Oui, non, mais en fait, juste pour terminer, parce que j'avais juste une chose que je voulais que tu racontes, parce que c'est bien que tu avais mentionné le nom de Sakou Koivu, parce que je voulais toujours entendre, et nous on en a parlé, mais pour nos auditeurs, ta perspective de la soirée de retour de Sakou Koivu, puis de façon que tu as joué comme un rôle quand même assez important là-dedans, est-ce que tu peux juste raconter ta perspective de tout ce qui s'est déroulé cette soirée-là, l'ovation et tout. C'était une soirée magique, évidemment. Mais de ta perspective, peux-tu raconter juste cette histoire-là de petits clins d'œil ou de petits regards que ça coûte à donner à un moment donné?
Oui, ben écoute, c'est indiscutablement une des soirées les plus mémorables que j'ai passées au Centre Bell. Depuis que je suis avec les Canadiens, il y a des moments comme ça extraordinaires. Mais, tu sais, je te donne des exemples. La fermeture du dernier match au Forum, l'annonce, bien sûr, de M. Béliveau, puis et le retour de Sakou. Mais le retour de Sakou, il y avait tellement un build-up autour de ce match-là et toute l'histoire qui avait entouré Sakou. Quand il embarquait sur la glace, on savait déjà, écoute, aux abords du Centre Bell, 2 heures avant, il y avait un monde fou. On sentait que c'était extraordinaire ce qui était pour se passer. Pendant la période d'échauffement, déjà que c'était extraordinaire comme atmosphère. Quand, en plus, on savait qu'il était pour être sur la formation de départ. Et là, on annonce, évidemment, le dernier Sakou Koivu. Ça commence. Et là, je me souviens très bien, Sakou me regarde une fois en disant, bon, ben, OK, on fallait s'y attendre. Je reviens de bord, me regarde encore avec deux fois. Et là, j'ai trois, la quatrième fois, là, il fait signe et avec la tête, oui, vas-y. Et là, je lève les bras, les mains en disant, mais c'est Sak, c'est impossible. Je peux pas enterrer 21 spectateurs. Fais juste savoure le moment. Et on verra après parce que, et même, sais-tu quoi, je me souviens pas qui étaient les officiels. Même les officiels ne voulaient pas aller vers le centre de,
non.
de la patinoire pour la mise au jeu parce que c'est lui qui était le joueur de centre. Et là, à un moment donné, de guerre lasse, on a dit, OK, là, il faut, là, on m'a dit, OK, on coupe dans les applaudissements parce que on va encore être ici pendant 15-20 minutes. Ouais. Alors là, ce coup a été soulagé, mais je me souviens de son look. Et je pense que le dernier look, là, il m'a dit « OK, that's enough. » Ah ouais, allons-y. Mais autant c'est pas nécessairement facile de stopper des 21 000 spectateurs. Tu peux pas arrêter ça comme ça, c'est pas, y a pas des freins à disque là-dessus, là. Tu peux pas arriver puis dire c'est ABS, puis tout le monde garde le silence 30 secondes après. C'est complètement, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment magique. Comme je te disais, fin du forum, début du centre Molson à l'époque aussi, Monsieur Béliveau, un autre moment extraordinaire, un moment triste, bien sûr, c'est quand on avait demandé la minute de silence, le moment de silence pour la fille de Bob Gainey, ça aussi, ça avait été un silence, c'est glacial. Et les gens sont très respectueux au Centre Bell pour ce genre de situation-là. Faut pas que ça traîne en longueur non plus, mais au nombre de cérémonies qu'on a faites, il faut se rappeler du 100e anniversaire, il y a un paquet de choses qu'on a faites. Mais ça, c'est des moments marquants que tu oublies jamais, jamais, jamais. Tu sais, je me souviens de l'annonce du but d'Yvon Lambert contre les Bruins en 79, en période de prolongation. Ouais. C'est absolument, c'est extraordinaire. Tu peux pas revivre ça. Là. Le toit du forum avait sauté. Mais quand je disais, tout à l'heure, gérer des émotions, c'est ça aussi. Il faut laisser autant le silence peut parler, autant les applaudissements, mais c'est un piège. Ça veut pas nécessaire. Il n'y a rien de pire que des applaudissements qui s'essoufflent pour le simple plaisir d'applaudir. C'est pas ça, les applaudissements. Mmh. Les applaudissements, il faut qu'ils soient nourris, il faut qu'ils soient bien reçus et bien véhiculés. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière les applaudissements. Mmh. C'est ça qui est important. Tu peux les arrêter si à un moment donné tu sens que ça vous fait à peine d'applaudir, là, c'est juste pour le plaisir, là. C'est pas la même chose. Ça, là.
En tout cas, dans la situation actuelle, transmettre de l'émotion, la générer, y contribuer, c'est certainement plus difficile parce que ça se fait par médias interposés, évidemment, n'ayant personne dans l'édifice. Mais ce que je veux souligner, puis ça, je pense que je reprends les mots que Harpin a écrits sur athletic.com aujourd'hui même. Mais écoute, c'est très difficile de... Comment je pourrais dire? En fait, je disais j'allais reprendre les mots d'Harpin, sauf que... Voyons, j'ai perdu mon idée.
Dans le fond, ce que moi, je trouvais hier soir, c'est que même si l'édifice était vide, s'il n'y avait personne, l'atmosphère n'était pas là, au moins, il y avait le voix de Michel Lacroix, puis ça donnait une certaine... Il y avait un certain sens de normal dans le match. Juste en entendant ton voix, et effectivement, j'ai ri quand tu l'as dit, mais c'est vrai, j'avais un feeling que c'est game time, quand j'ai entendu « Mesdames et messieurs, bonsoir ». Je me suis mis à rire parce que tu parlais à personne, mais en même temps, ça m'a mis dans le match. Alors, il y avait de toutes les choses qui n'étaient pas normales, il y avait au moins ça, t'sais.
Mais il y a ça, tu sais, excuse-moi. Je veux juste, il y a quelqu'un hier qui me disait, sais-tu, ça nous a fait du bien, t'es comme une espèce de doudou. C'est une espèce de voix assurante.
Exactement. Exact.
Qui remet ça que tout je en dire. Perspective.
Ouais.
Ouais, effectivement, c'est un petit peu comme, tu sais, comme Jacques Doucet dans le temps à la radio pour les matchs des expos. C'était comme le ronron quotidien pour les gens. Mm-hmm. effectivement une voix rassurante, une voix chaude, une voix radiophonique, puis évidemment tu es de cette gamme de grandes voix là. Je pense que c'est dans un moment où les gens essaient de se rattacher à quelque chose qu'ils connaissent, à quelque chose qu'ils aiment et qu'ils trouvent important. Je pense que de retrouver, même dans un cadre qui visuellement est complètement anormal, au moins au plan auditif, d'avoir Michel Lacroix qui revient et dit « OK, il y a ce semblant de normalité-là qui fait une courroie avec ce qu'on connaît normalement des matchs du Canadien. » Je pense que ça, c'est très important parce que ça aide à nourrir un lien qui autrement, en ce moment, est beaucoup plus ténu que ce l'est normalement.
Ben c'est ça. Tu sais, je pense que c'est les premiers petits pas vers la normalité, disons ça comme ça, là, tu sais, en disant bon, ouais. « OK, tranquillement, on revient. On a du hockey, OK. » On ajoute les pièces une à une, puis au bout du compte, on va finir par y arriver. C'est peut-être ça, mais en tout cas, ce qui est important, je pense, c'est de fournir aussi la même énergie, de donner la même énergie, qu'il y ait 100 personnes, qu'il y ait 200 personnes dans le building. T'sais, le but était beau, ça mérite d'être souligné, on le souligne, et il y a des gens qui ont sûrement réagi dans leur salon, dans leur auto, en écoutant la présentation du match, en regardant le match hier. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont levés pour l'hymne national aussi, qui ont certaines personnes qui ont découvert Roger Doucette jusqu'à Ginette Renault. Alors, tu sais, c'est tout ça, là, tranquillement, pas vite, apprivoiser ce retour à la vie normale. Ça se fait.
Ouais, c'est possible. C'est exactement ça. Puis c'est ça, la vie normale, tu en fais part pour plusieurs. Alors, merci tellement de venir nous parler de cette expérience très unique et bizarre hier soir, puis j'ai déjà hâte d'entendre « Mesdames et messieurs, bonsoir samedi soir
». Comme on dit, it's a work in progress, hein, ça va.
C'est ça.
Il y a des choses qui vont peut-être changer, mais c'est ça. Mais comme je te dis, c'est de garder la même énergie. Je pense que ça, c'est important. Je voudrais pas arriver avec un ton un peu plus neutre, tu sais. Bonsoir, mesdames, messieurs. Non, 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 c'est bang. Comme ouais. S'il y avait 20 000 spectateurs qui sont autour de moi. On va y aller. Allons-y dans le plancher. Exact. Là, ils vont peut-être juste baisser. Ouais. Je pense qu'ils vont peut-être un peu baisser le volume. Si je mets ça dans le plancher, je ne suis pas sûr que les 42 personnes dans l'amphithéâtre vont bien aimer ça. Mais tu vois, ça m'a aussi permis, parce qu'il y a quelques blagueurs hier qui ont mis mon nom au tableau en disant « Regarde, c'était chanceux, c'est toi qui as gagné une moitié-moitié aujourd'hui.
Ben, » ouais, oui, effectivement, ouais, c'était bon ça.
Ouais. 50-50, ben oui, ça a donné un gros pot de
6,25 $.
Ouais, c'était drôle ça. Ouais, c'était bon. C'était drôle. Écoute, Michel, merci beaucoup d'être passé au sport athlétique. On est choyé d'avoir eu ta présence. Alors,
ben, ça me fait plaisir. Pour le travail merci de l'invitation. Fais. C'était bien agréable et bien gentil.
Bon, ben merci. Alors, écoutez tout le monde, merci à tous d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve la semaine prochaine pour The Athletic Support. Et n'oubliez pas, vous pouvez retourner au début de l'émission si vous voulez prendre le numéro de téléphone pour notre boîte vocale. On va prendre les messages, évidemment, en anglais comme en français. Merci, Arpin. Et puis, on se retrouve bientôt, tout le monde. Bye-bye.
Bye-bye.